Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons enfin, après si longtemps. Et je crois que nous étions la dernière fois en pleine étude du Shmoné Esré, et que nous en sommes arrivés à la bénédiction de Modim. Modim, c'est l'avant-dernière bénédiction, qui est soit la 18e aujourd'hui, soit c'était la 17e avant. D'accord ? Puisque la prière des 18 bénédictions en comporte 19. Alors, la bénédiction de Modim, comme elle porte bien son nom, c'est la reconnaissance. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a deux textes de Modim. Il y a le Modim qui est prononcé par le Chazan, par le maître officiant, ministre officiant, et il y a le Modim, ce qu'on appelle Derabanan, qui est récité par l'Assemblée. C'est-à-dire, alors que dans toutes les autres brachot, on délègue le Chazan pour parler en notre nom, eh bien, dans le Modim, on ne délègue pas le Chazan, il dit ce qu'il a à dire, mais nous, on dit aussi. La raison est très simple, c'est qu'on ne peut pas remercier par un intermédiaire. C'est-à-dire, la reconnaissance, c'est quelque chose qui doit être dans la conscience, et pas simplement une délégation. Et donc, personne d'autre ne peut le faire à ma place, donc je fais le Modim. Non, l'importance de la reconnaissance est une chose assez importante dans le judaïsme, à tel point même, par exemple, que bon, c'est une chose que nous avons étudiée dans les dernières années à propos du roi de Yehuda, le roi de Judée, Chizkiyahou, en français Ézéchias, qui était candidat à être le Messie, dit la Guémara. Il aurait pu être le Mashiach. Mais ça lui a été refusé parce qu'il a eu un manque de reconnaissance. C'est-à-dire, alors qu'il a eu un miracle qui a sauver son royaume de la servitude aux Assyriens, à Sainte-Rérive, eh bien, au lieu d'entonner le Hallel, de remercier Akadosh Baruch Hu pour ce qui s'était passé, il ne l'a pas fait. Et c'est la raison pour laquelle il était disqualifié d'être le Mashiach. C'est quelque chose d'un peu énorme. C'est-à-dire, on pourrait dire, bon, il aurait fait une gaffe gigantesque, une avera. Non, il n'a simplement pas été reconnaissant. Il y a des raisons à cela. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu dire le Hallel ? Ça, c'est une étude en soi. Simplement, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un rapport entre la reconnaissance et la capacité d'accomplir le messianisme. Or, le messianisme, je ne sais pas si vous savez, c'est quand même la réussite de tout. C'est-à-dire, il y a eu des gaffes gigantesques qui ont été faites pendant l'histoire. Ces gaffes doivent être réparées. Et le grand réparateur, c'est le Mashiach. Depuis quand est-ce qu'il y a des gaffes dans le monde ? Depuis quand ça va mal, hein? Depuis Adam Harishon. C'est-à-dire, depuis le premier homme, il y a déjà des problèmes. Donc, on suppose que le Mashiach est quelqu'un qui est capable, par son action, de tout réparer depuis les débuts de l'humanité. Maintenant, combien de péchés a fait le premier homme? Il en a fait deux. Oui, il en a fait deux. Maintenant, petite question. Quel est le péché le plus grave? Le premier qu'on fait ou le deuxième qu'on fait? Le deuxième, c'est toujours plus grave. Parce que dans le premier, il y a un peu de ce qu'on appelle shogeg, un peu d'inadvertance. Dans le deuxième, il y a une pleine conscience, et là c'est plus grave. Quel était le deuxième péché du premier homme? Quand il a accusé sa femme de la responsabilité. C'est-à-dire quand il y a eu un manque de reconnaissance. Parce que quand je lui dis, pourquoi est-ce que tu as pris du fruit? Ça, c'était le premier péché. Il dit, c'est la femme que tu as mis avec moi qui m'a donné de ce fruit. C'est un reproche. Hein? Oui, donc il reproche à Akadosh Baruch Hu, il dit voilà, c'est à cause de la femme que tu m'as mis. Alors qu'il aurait dû être reconnaissant d'avoir été sauvé de la solitude par la femme, au contraire, il se plaint. Et donc on peut dire que toutes les catastrophes de l'histoire sont des dérivés de ce manque de reconnaissance. Et donc c'est quoi la réparation des catastrophes de l'histoire? Ben, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire la capacité de dire merci. C'est fondamental dans la réussite de l'histoire. Mais non, c'est pas pour rien. On pourrait dire, oui, mais s'il avait fait une autre faute, par exemple, qu'il avait mangé un poisson pas cachère, alors la réparation, ce serait de manger le poisson cachère, par exemple. C'est pas par hasard que le problème du premier homme, c'était la reconnaissance. Parce que la reconnaissance, c'est la seule chose que Dieu ne peut pas faire à ma place. À la limite, Dieu pourrait tout faire à ma place. Tout, y compris être rassasié. Par exemple, pour être rassasié, je mange. Mais à quel jour on pourrait très bien faire que je sois rassasié sans manger? Et donc, il y a seulement une seule chose qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas faire à ma place, c'est d'être moi-même. Or, ce qui exprime le fait que j'ai une indépendance, que j'ai une autonomie, c'est justement ma capacité de remercier. Donc vous voyez qu'il y a ici quelque chose de beaucoup plus profond que simplement une formule de politesse. C'est que la reconnaissance, c'est la réussite de l'entreprise de la création. Et là, il faut mettre un petit point sur les i. C'est quoi créer? Créer, c'est donner l'être à un autre. Faire qu'il y ait un autre. C'est ça la création. Donc le projet d'Akadosh Baruch Hu en tant que créateur, c'est qu'il y ait un autre. Donc il faut que l'autre se manifeste dans ce qui est spécifique de l'autre. C'est la capacité de reconnaître, d'être reconnaissant. Et c'est pour ça que dire modim, le modim, c'est la réussite de la création du monde. Vous voyez? D'où l'importance du Hallel à Yom HaAtzmaout, par exemple, qui est un Hallel qui, justement, fait qu'on reconnaît que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné l'État d'Israël, alors qu'on aurait de très bonnes raisons de dire que ça vient par des voies naturelles. Vous avez compris? Bon. Alors, ça explique, disons, l'arrière-plan du modim dans son ensemble. Tout est clair? Bon. Alors maintenant, je vais rentrer dans le détail. Oui, il y a des questions? Bon, mais le modim à la fin, justement, parce que c'est à la fin. C'est à la fin qu'on est reconnaissant. Oui, alors pourquoi pas mettre après Sim Shalom? D'accord? Parce que tant qu'il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de paix. C'est-à-dire, dans le Sim Shalom, il y a un élément qui fait que il y a quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire et que nous demandons à Kadosh Baruch Hu. Il y a une expression extrêmement pessimiste qui est répercutée par Enrico Macias. C'est au Sechalom Bimromav, où il y a Sechalom Alenu Valkol Israël, Vemro Amen. Dans cette expression, qui en fait n'est pas d'Enrico Macias, mais qui a des sources plus anciennes, dit la chose suivante. Celui qui fait la paix dans ses hauteurs fera la paix sur nous. Ça veut dire qu'on ne sommes pas capables de la faire. C'est terrible cette phrase en fait. C'est une phrase de la puissance. C'est-à-dire, on a fait tout ce qu'on a pu. On est arrivé jusqu'à maudit. Mais il y a quand même un élément qui nous manque. C'est la paix. D'accord? Et ça peut venir que d'en haut. Quand on arrivera à Sim Shalom, on comprendra pourquoi. Exactement. Exactement. C'est le couronnement de la tfila, de la création du monde de manière générale. Maintenant, quand on parle de reconnaissance, il y a différents niveaux de cette reconnaissance. C'est pour ça que la beracha de modim est assez longue. Mais parce que dans le modim, nous sommes reconnaissants envers Akadosh Baruch Hu pour les bienfaits qu'il nous fait. Par exemple, il nous donne la vie, il nous donne la santé, il nous donne la parnassa, il nous donne la Torah, il nous donne tas de choses. D'accord, c'est très bien tout ce qu'il nous donne. Mais il y a quelque chose de plus fondamental qui vient avant. Avant les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu nous fait. Il nous donne l'être lui-même. L'être. Et ça vient avant les bienfaits qu'il nous donne. Vous comprenez? Donc, on va d'abord être reconnaissant envers lui pour le fait même de la création. Et puis après, pour ce qui se manifeste dans l'histoire jusqu'à l'individu. C'est-à-dire, ça passe par le collectif, après par l'individuel et par chaque moment. Donc, si vous voulez, la bracha est formée un peu comme une pyramide à l'envers. On commence par le très général et puis on arrive après au très particulier. Alors on va maintenant étudier le texte. Bon. Modim anachnu lach. Nous te sommes reconnaissants. She'atahu. Alors, oui. J'ai rien compris. Lach et lecha. Oui, ce sont deux formes grammaticales d'origine biblique. Chez les rabbins, à l'époque du Bayit Sheni, du deuxième temple, on a plus adopté l'expression lach que lecha, par influence de l'araméen. D'accord? Maintenant, il y a des tentatives de rectification pour imposer le style biblique dans la prière. Alors vous avez des sidourim, par exemple, comme le Ishmatziliach, où tous les lach ont été transformés en lecha. Personnellement, je n'adopte pas du tout cette position. On ne peut pas transformer des traditions uniquement parce qu'on a de la grammaire. Et la grammaire ne vient pas du Sinaï. La grammaire, c'est une analyse de la tradition. Alors, s'il y a une tradition qui dit l'art, il faut garder l'art. Maintenant, que veut dire le mot l'art? L'art, ça veut dire à toi, au féminin. Mais ça veut dire également à toi, aussi bien au masculin qu'au féminin, à l'époque du deuxième temple. Maintenant, au niveau du pshat, au niveau simple, il n'y a pas de différence entre l'écha et l'art. Seulement, au niveau kabbalistique, il y a une différence. C'est-à-dire que dans la ponctuation, on met un kamatz et après un sheva dans l'art, tandis que dans l'écha, on met un sheva et après un kamatz. N'est-ce pas? Or, le sheva, chez les kabbalistes, représente ce qu'on appelle midat ha-din, la rigueur. Et le kamatz représente midat ha-rahamim, la miséricorde. Alors, quand on dit l'écha, ça commence par la rigueur et ça finit en miséricorde. Et quand on dit l'art, ça commence en miséricorde et ça finit en rigueur. D'accord? Or, par exemple, dans ce cas précis, le modim anachnu l'art, c'est-à-dire que nous sommes reconnaissants même quand il y a rigueur. Mais ça, c'est valable au niveau de la lecture kabbalistique, pas au niveau du pshat. Même quand il est rigoureux envers nous. C'est-à-dire, parce qu'il y a un sens à cette rigueur. Mais évidemment, c'est pas. Je suis insatisfait de ça parce que j'aimerais bien avoir une explication au niveau du pshat. Or, je ne l'ai pas. Que faire? Bon. D'ailleurs, regardez dans le modim des Rabbanan une petite seconde. Vous avez, dans le deuxième modim, on finit par Al she'anachnu modim lach baruch el ha'odaot. Ce qui veut dire littéralement, nous te sommes reconnaissants de nous permettre de nous permettre la reconnaissance. Et nous sommes reconnaissants d'être reconnaissants. Hein? J'ai pas compris. Oui, mais enfin, c'est extraordinaire. C'est une interprétation en fait du professeur Levinas, qui expliquait que nous avons la reconnaissance d'avoir la possibilité de la reconnaissance. Donc de donner un sens à la vie, effectivement. C'est-à-dire que la vie a un sens au niveau moral. C'est une signification morale de la vie. Maintenant, je reviens au premier modim. D'accord? Nous allons donc étudier, je crois, le modim. Modim anarchnoulach. Nous te sommes reconnaissants. Chez Ata, alors dans la plupart des sidourim ashkénazes, il n'y a pas écrit Chez Ata, mais Sha'ata. D'accord ? Écrit Sha'ata. Quelle est la différence ? Aucune. Enfin, que vous sachiez quoi, c'est comme ça. Chez Ata, hu Hashem Elohenu, Velohe Avotenu Lolam Vaed. Alors, traduction littérale. De ce que tu es, l'Éternel, notre Dieu, est le Dieu de nos ancêtres à tout jamais. Alors évidemment, chacune de ces expressions veut dire autre chose. She'atahu Hashem Elohenu, de ce que tu es, l'Éternel, notre Dieu. Alors, pour bien comprendre ça, il faut se référer au chapitre 24 du livre de Yehoshua, Josué. Dans le livre de Yehoshua, Josué, au chapitre 24, l'Abdalet, il y a un récit assez surprenant. C'est une mise en scène faite par Yehoshua dans les dernières années de sa vie. Il réunit dans la ville de Shrem les chefs d'Israël, les anciens, tous, les chefs des tribus, et il leur fait une sorte de marché, une proposition. Il leur dit, voilà, c'est vrai que nous sommes les serviteurs de Dieu, mais nous avons une tradition plus ancienne. Nos ancêtres étaient idolâtres aussi. Alors en fait, il y a donc deux traditions en Israël, la tradition idolâtre, la tradition monothéiste. Et peut-être que ça vous plairait, c'est très, très bizarre, mais c'est comme ça qu'il a choisi, hein. Ça vous plairait peut-être d'être idolâtre. Alors décidez aujourd'hui si vous voulez, et moi et ma famille, nous continuerons à adorer à Kadosh Baruch Hu. C'est pas trop tard, il y a encore une possibilité de sortir du jeu. Et alors le peuple répond, non, pas du tout. Comment pourrions-nous abandonner Akadosh Baruch Hu alors qu'il nous a fait tellement de bienfaits? Il nous a sortis d'Égypte, il nous a aidés à conquérir la terre d'Israël. On va quand même pas le laisser tomber, il a été tellement gentil avec nous. Réponse de Yehoshua, ah si c'est comme ça, c'est pas une bonne raison. Parce que de la même manière qu'il a été bon avec vous, il pourrait être méchant avec vous. Le jour où vous ne ferez pas sa volonté, Il a décidé d'être méchant avec vous. Donc les avantages ne sont pas aussi bons que vous le dites. Et alors le peuple répond, Lo ki et Hashem na'avod. Non, nous voulons quand même servir Dieu. Et alors Yoshua contracte une alliance avec le peuple. C'est dans le chapitre 24 de Yoshua. 24, c'est Kafdalet. N'est-ce pas? Le problème de savoir, qu'est-ce que ça voulait dire cette mise en scène? Évidemment, on voit bien que c'est un truc truqué, quoi, à l'avance. Mais ça veut dire que ce que Yoshua voulait enseigner au peuple, c'est que l'on est reconnaissant, on est redevable envers Akadosh Baruch Hu, pas à cause de sa gentillesse, pas parce que c'est à cause de sa bonté. Mais il y a une valeur en soi. C'est pour ça qu'on dit Modim anachnular shatahu Hashem Eloheinu, parce que tu es l'éternel notre Dieu. C'est parce que Dieu est Dieu qu'il faut le servir, et pas parce qu'il est bon avec nous qu'il faut le servir. En plus, une fois qu'on a compris ça, alors on peut également dire qu'il a été bon avec nous. C'est comme ça que commence le modim, vous avez compris? Shatahu Hashem Eloheinu. D'accord? Maintenant. Ve Elohe Avotenu, et tu es également le Dieu de nos ancêtres. Qui c'est nos ancêtres? Hein? Oui, quoi? Quoi encore? Non, ça va. C'est moi qui fais la tête. Mais... Oui. Elohe, c'est un pluriel, oui. Oui, mais toujours comme ça, parce que le mot Elohim est une forme plurielle. C'est pas nouveau, ça. À la fin, on dit Baruch El Ha'odot. Elle, c'est pas le singulier de Elohim, c'est Eloah qui est le singulier de Elohim. Elle, c'est un singulier. C'est le singulier de elle. Le pluriel de elle, c'est Elim. D'accord? Maintenant, Elohim est un pluriel, le singulier Eloah. Alors, quelle est la question maintenant? Au pluriel? Ben oui, bien sûr. Parce que Elohim représente celui qui détient l'ensemble des forces. Donc, Elohim, ce sont des forces. Mais non, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a écrit Hachem Eloheinu. Hachem est un singulier. Eloheinu un pluriel. Ça veut dire que dans la multiplicité des forces, il y a une unité. C'est le principe de ce qu'on dit dans le schéma Israël. Hachem Eloheinu. Hachem, c'est Dieu. Eloheinu qui est notre Dieu. Mais nous, ça, qui est nos dieux, c'est ce que ça veut dire. Hachem qui est nos dieux. C'est-à-dire, c'est un refus du polythéisme. D'accord? C'est exactement le contraire du polythéisme. C'est bien clair ce que je dis là ou pas? C'est la même chose. Elohim, Shel ou Elohe, c'est la même chose. Oui, grammaticalement, c'est exactement la même chose. Bon, si on voulait dire au singulier, on aurait dû dire Eloah à voter. Eloah Yaakov, exactement. Sagif Hashem, Eloah Yaakov. C'est bon? Non, ça va, ça ne me casse pas les pieds du tout, je suis là pour ça. Ouais, d'accord, très bien. Bon, continuons. Azav Hashem, Elohenu, Eloah Avotenu. Elohe Avotenu, Dieu de nos pères. Qui c'est nos pères? Avraham, Yitzhak et Yaakov, ça aurait été possible. Le problème, c'est qu'après on dit le Olam Vaed à tout jamais. Or, nos pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont morts depuis longtemps. Donc on ne veut pas dire qu'il est à tout jamais le Dieu de nos pères. À moins que ça ne veuille dire le Dieu de tous nos pères, depuis Avraham, Yitzhak et Yaakov, et après ça arrive jusqu'à Georges et Albert. C'est-à-dire, ça, c'est un exemple, hein. C'est pas forcément, même ceux dont il peut avoir d'autres noms de pères, etc. C'est-à-dire qu'il y a une lignée qui fait que le principe des avot est préservé de génération en génération. D'accord? Mais alors, c'est quoi être des avot? Être le père de quelqu'un, c'est une manière d'être qui n'est pas évidente. C'est quoi quand on dit, voilà, lui c'est le père d'un tel. Qui est important, le père ou le fils? Le fils, puisqu'on le définit par rapport à un tel. Par contre, si je dis, il est le fils d'un tel, c'est donc c'est que le père qui est important. Et il est le fils de machin. Donc c'est machin qui est important. Et donc, on peut dire que il y a une manifestation d'Akadosh Baruch Hu à travers ceux qui acceptent d'être des pères. C'est-à-dire, être père, ça veut dire être en deuxième plan. C'est-à-dire, accepter de vivre en fonction d'une destinée, d'un rôle qui ne sera rempli que par le fils. Il y a donc des générations de pères, il y a des générations de fils. Les générations de pères, ce sont celles qui vivent dans l'attente de l'accomplissement. Et les générations de fils, ce sont les générations qui accomplissent. Donc, à chaque fois que nous étions, par exemple, en exil et qu'on attendait de sortir de l'exil, c'était des générations de pères. À chaque fois que nous sommes sortis de l'exil et que nous avons réalisé la libération d'Israël, ce sont des générations de fils. Alors, par exemple, nos parents, ce sont des pères. Et nous sommes des fils. D'accord ? Parce que nous sommes dans la génération de l'accomplissement. Mais donc, la manière dont Dieu est connu par des pères est différente de la manière dont Dieu est connu par des fils. C'est pour ça qu'on dit « Elohé, avotez-nous, tu es le Dieu de nos pères. » D'accord ? C'est ce qu'on a vu également dans la première bracha. « Elohé, nous, Elohé, avotez-nous, Elohé, Abraham, Isaac, Elohé, Jacob. » Vous vous rappelez tout ça ? Alors, ils deviennent fils. D'accord ? Voilà. Ils deviennent fils. Il y a des fils de fils, il y a des fils de pères. D'accord ? Il y a des fils à papa. Ouais. Mais non, le père n'accomplit pas justement. Il est le père du fils. Il est le père, il vit pour qu'un jour le fils accomplisse. C'est ça un père. Non, c'est pas le père qui a construit, c'est le père qui a prévu. C'est le père qui a préfiguré. Un jour, on y arrivera. C'est, le fils d'eux, c'est une manière d'humilité. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué que la Torah est donnée aux enfants d'Israël, béné d'Israël, pas aux pères d'Israël. C'est-à-dire qu'Abraham, Isaac et Jacob étaient des géants puisqu'ils ont accepté de ne pas être des fils. Alors qu'ils savaient très bien que l'alliance est contractée avec les fils, pas avec les pères. Hein? C'est mieux. Ah oui, évidemment. C'est-à-dire c'est mieux d'être fils que père. Oui. D'accord. Ça n'a rien à voir avec le front islamique en Algérie, qui s'appelle également FIS. Mais c'est autre chose. D'accord ? FIS. C'est simplement un homonyme, mais c'est pas la même chose. Voilà. Bon. Revenons au texte. Tsurenu. Alors bon, il y a quelques petites variantes entre le texte ashkénaze et le texte séfarade. Pour la commodité, puisque ça vous avez dans les yeux, nous allons nous servir du texte séfarade, mais ce n'est pas très important. Tsurenu. Tsurenu, ça veut dire quoi ? Notre façonneur. Joli. J'aurais dit ça pour Yotserenu. Yotser, c'est façonner. Mais Tsur, ça veut dire quoi ? Tsur, ça veut dire littéralement notre carrière. Notre carrière, oui. Tsur, c'est une carrière. C'est le rocher d'où on extrait quelque chose. Par exemple, imaginez que vous vouliez faire un menhir, par exemple. Il faut pour ça une carrière d'où le menhir est extrait. D'accord ? Ça s'appelle le tsur. Vous savez ce que c'est un menhir ? Oui, bon. Non, pas tout le monde sait. Donc, tsurenu, notre carrière, tsurhayenu est le rocher de notre vie. Alors, pourquoi est-ce qu'on décrit Akadosh Baruch Hu comme étant une carrière ? C'est très intéressant, ça veut dire que la création est une extraction. Quelque chose était extrait de la divinité pour permettre l'existence de l'être. Mais non, c'est bizarre, parce que ça, si c'est vrai ce que je viens de dire, alors ça voudrait dire que la créature est un morceau de Dieu. Ça ne tient pas debout. Hein ? Ce serait un petit Dieu, une diminution de Dieu. C'est pas possible. Oui, bien sûr. La carrière, elle diminue aussi. Donc ça ne tient pas debout. Hein ? Dieu est indivisible, donc on ne peut pas faire des morceaux de Dieu. C'est les idolâtres qui disent qu'il y a des morceaux de Dieu. Ils vendent ce qu'on appelle des morceaux de la croix, de la vraie croix. Ils en ont plein des comme ça. On peut faire une forêt entière avec les morceaux de la vraie croix. Hein ? Pas du tout ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est de ce qu'expliquent les kabbalistes, c'est que la création est, c'est susciter un vide dans l'infini. Et vous savez, on dit souvent que le monde est créé, en hébreu on dit yesh me'ayin, l'être à partir du néant. Mais pour qu'il y ait un néant, il faut supprimer, d'une certaine manière, l'être qui remplissait ce lieu. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle chez les kabbalistes le tzimtzum. Le tzimtzum, c'est comme s'il y avait un écartement. Le créateur s'éloigne pour permettre à la créature son existence, à la manière d'une carrière. C'est pour ça qu'on l'appelle carrière, sourd. Cette expression, on la retrouve dans le livre de Shemot. Vous connaissez le livre de Shemot? Dans Shemot, il y a une paracha qui n'a rien à voir avec le Japon malgré son nom, Kitissa. Vous connaissez? La paracha de Kitissa. Et il y a là-bas un entretien assez extraordinaire entre Moshe et Akadosh Baruch Hu après la faute du veau d'or. Et là-bas, ce que dit Dieu à Moshe, Hine makom iti, vois, il y a un lieu avec moi, venitsavta al hatsur, et tu te tiendras sur le rocher. Alors, ça veut dire quoi, il y a un lieu avec moi? Alors là, il y a une précision des Chachamim dans le Midrash. Il y a un lieu avec moi, ce n'est pas moi qui suis avec le lieu. Parce que Akadosh Baruch Hu, c'est le lieu du monde, mais le monde n'est pas son lieu. C'est-à-dire comme si, pour qu'il y ait un lieu, Akadosh Baruch Hu avait évacué sa présence. Donc il y a un lieu avec moi. Makom iti. Venitsavta al hatsur. Venitsavta, ça veut dire tu te tiendras sur le rocher. Tu te tiendras, venitsavta. Comment est-ce qu'on dit se tenir en anglais? Stand. Et comment est-ce qu'on dit comprendre? Understand. C'est se tenir en dessous. Eh bien, c'est un peu ce que dit l'hébreu biblique. Venitsavta, tu comprendras. Et quand on dit tu te tiendras, ça veut dire que tu auras l'entendement de la chose. À la tour du rocher, tu comprendras la manière dont j'ai créé le monde. Explique le Malbim. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de jour à expliquer à Moshe comment est-ce que le monde a-t-il créé. Alors il dit, Vehaya Baravor Kevodi, ce sera lorsque passera ma gloire, Vesamticha Benikratatsur, que je te mettrai dans la cavité du rocher. Vesakoti Kapir Alecha Adovri, et que je te couvrirai de ma paume jusqu'à mon passage. Vasiroti et Kapi, j'enlèverai ma paume. Veraïta et Achorai, et tu verras mon arrière. Ufana et Loiraou, mais ma face ne sera pas vue. Passage extrêmement mystique, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi ça? Je te mettrai dans la cavité du rocher. Vous êtes rentré dans une cavité de rocher, vous, dans la vie? Vous êtes arrivé? Non, jamais, dans une grotte? Hein, jamais? Hein? Hein? Cavité de rocher? Hein? Jamais rentré? Ah, quand même, hein? Où ça, à Lascaux? Hein? À Maléa Hamisha, oui. Il y a également des très belles grottes maritimes à Rosh Hanikra, à la frontière du Liban, vous avez jamais vu? Ah, ça vaut la peine de voir ça. Bon, en tout cas, ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, pour que tu comprennes la création, il faut que je te mette dans une cavité de rocher. Cette cavité de rocher, c'est donc une sorte de sphère à l'intérieur d'un roc. Il dit, voilà, c'est comme ça que j'ai créé le monde, en faisant un creux. Et c'est quoi la paume qu'il met? Comment vous dites une paume en hébreu? Kaf, n'est-ce pas? Kaf. Kaf, c'est vraiment une lettre, non? Il y a une lettre comme ça qui s'appelle Kaf. D'abord, cette lettre, elle est comment? Elle est ronde. Elle est ronde. C'est ça, c'est pour ça dire qu'une cuillère aussi s'appelle Kaf, pour la même raison. Et la lettre Kaf, on peut l'ajouter au nom de Dieu. Akadosh Baruch Hu s'appelle Ani, moi. Mais quand il se révèle, il s'appelle Anochi. Il a rajouté un kaf. Donc, sache que dans ma manifestation, il y a un filtre qui fait que ma présence reste cachée. C'est le kaf, Anochi. D'accord? Tout ça, c'est pour vous expliquer le mot Tsureno, notre susciteur. Enfin, notre carrière, notre susciteur. Petite remarque. Les noms de Dieu changent dans l'histoire, n'est-ce pas? Le premier nom de Dieu dans la Torah, c'est quoi? Elohim, n'est-ce pas? Quand il crée la nature, il s'appelle Elohim. Et puis après, quand il crée l'homme, il s'appelle Hachem Elohim. Et puis après, quand sa domination est acceptée par Abraham, il est appelé Adonai, le maître, le seigneur. Et puis quand il donne des promesses, il s'appelle El Shaddai. Quand il réalise sa promesse, il s'appelle Hachem. Quand il fonde l'État d'Israël au temps du roi David, il s'appelle Hachem Tsevaot. Après, quand il perpétue son alliance, il s'appelle Kedosh Israël. Et quand il fait disparaître sa présence, alors il s'appelle Shamaïm. Shamaïm, et puis après, ça c'est pendant le temps du deuxième temple. On dit Yirat Shamaïm, par exemple. Et puis quand le monde passe, quoi? Non, merci. Et quand le monde passe à l'abstrait, il s'appelle Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. Ça? Et quand il revient avec l'État d'Israël, il s'appelle comment? Ben, vous n'avez qu'à voir dans la déclaration d'indépendance d'Israël. Comment est-ce que Dieu est appelé là-bas? Tzur Israël, le rocher d'Israël. C'est-à-dire, il y a un nom, Akadosh Baruch Hu, qui se manifeste lors de la création de l'État d'Israël, c'est quand il recrée, alors il s'appelle à nouveau Tzur. Vous avez compris? D'accord. Oui, c'est une nouvelle naissance, une nouvelle création. D'ailleurs, intéressant, pourquoi est-ce que c'est cette expression qui a été choisie pour la déclaration d'indépendance? Parce qu'il y a eu un débat au sein des représentants du Yishuv. Il y avait là-bas des communistes qui ont dit, si vous écrivez le nom de Dieu, on ne signe pas. Et il y avait là-bas des religieux qui ont dit, si vous n'écrivez pas le nom de Dieu, nous on ne signe pas. Alors comment ça se passe en politique? On fait un compromis. Ils ont mis, ayant confiance dans le rocher d'Israël, expression poétique. Mitor mitachon betzur Israël. Et c'est comme ça que ça a été écrit. Ce qui veut donc dire que personne ne voulait écrire ça. C'est donc l'Ashgara. C'est la providence. Vous avez compris? C'est comme ça que ça marche. Je reviens donc maintenant à Tzur Israël. Tzurenu. Donc Tzurenu, c'est ce qui suscite l'être à l'origine. Tzur Hayenu, qui nous donne notre vie, la vitalité. C'est-à-dire, en plus de l'être, il y a la vitalité. Ça, ça se manifeste dans la vie. Tzur Hayenu, la vitalité universelle. Il y a d'ailleurs, je crois, chez les Ashkenazim, le mot Tzurenu n'apparaît pas, mais il y a Tzur Hayenu. Umagen Yishayenu, le bouclier de notre délivrance. C'est-à-dire, vous voyez que ça passe de l'origine, Tzurenu, après ça arrive dans le présent, Tzurhayenu, Magenishenu, dans le futur, passé, présent, futur. Celui qui nous sauve, Atahu, c'est toi qui l'es. Alors maintenant, c'est un rapport à tout un problème, savoir, est-ce que le monde naturellement tombe, ou est-ce que le monde naturellement monte? Il y a, par exemple, chez les scientifiques, cette idée que le monde est en chute perpétuelle. C'est ce qu'on appelle l'entropie. Parce que c'est l'entropie. C'est une expression, c'est un terme de physique. Qui veut dire que la tendance générale de toute chose, c'est la comment ça en français? Terreau qu'on dit en hébreu. Non, pas du tout. C'est la division, enfin la décadence. On peut dire la décadence. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup plus d'énergie pour construire un mur que pour détruire un mur. D'accord? Donc c'est plus facile de détruire que de construire. Donc, selon cette logique-là, le monde va en se détruisant. Par exemple, les étoiles. Les étoiles, elles sont bourrées d'énergie, n'est-ce pas? Mais cette énergie est dilapidée. Ce qui fait que dans quelques milliards d'années, l'énergie des étoiles aura été entièrement exploitée. Il ne restera plus qu'un monde avec des épaves d'étoiles, froid et noir. C'est ce qui restera du monde. C'est ce qu'on appelle l'entropie. D'autre part, il y a ce qu'on appelle l'élan vital, expression de Bergson, qui fait que quand on regarde dans le monde, on voit que ça va en évoluant. C'est-à-dire que de l'inorganique est né l'organique. De la nébuleuse originelle est arrivé le système solaire. Dans le système solaire sont apparues les aires géologiques qui ont donné les premières cellules vivantes. Et puis après, ça a donné les plantes et les animaux. Et c'est arrivé aux hommes. Et des hommes, c'est arrivé aux philosophes. Donc, vous voyez bien qu'il y a une évolution d'élaboration de plus en plus compliquée de la vie. Conclusion de Bergson. Ça va tellement bien marcher qu'un jour, même la mort disparaîtra. Alors vous avez donc ici deux approches totalement différentes. L'une qui suppose que le monde est en chute permanente, et l'autre qui dit que le monde est en évolution permanente. Qui a raison? Hein? Ah ben, soit ça tombe, soit ça monte. Non, ça évolue en ascension. Alors, soit c'est ascendant, soit c'est descendant. Ça monte pour mieux descendre. Donc c'est les anthropistes qui ont raison. C'est-à-dire que si tu dis que c'est comme ça, ça veut donc dire qu'en fait il n'y a aucun espoir. C'est-à-dire que la civilisation humaine, etc., c'est très joli, mais un jour tout ça va disparaître. Donc ça va vers le néant. N'est-ce pas? Alors il y a ici deux approches. Il y a une approche pessimiste et une autre optimiste. Mais ce que dit la prière ici, c'est que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait que ça monte. C'est-à-dire, du point de vue de la pure nature, ça devrait tomber, mais Akadosh Baruch Hu relève tout. C'est l'expression qu'on dit dans Ashrei, Somer Hashem lechol anofilim. Dieu soutient tous ceux qui tombent. Maharal de Prague explique, ça veut dire quoi? Tous ceux qui tombent, c'est tous qui tombent. Tous tombent et tous sont relevés. Les d'or va d'or, nodelecha, de génération. Donc tout ça, c'est de la grande métaphysique. Maintenant, ça passe dans l'histoire. Les d'or va d'or, de génération en génération. Nodelecha, nous te serons reconnaissants. Ou nesaper tehilatecha, et nous raconterons ta louange. Très bizarre cette expression-là. Il devrait être interdit de raconter la louange. Oui, vous connaissez cette histoire. Dans la Gemara, on raconte qu'il y avait une fois un Hazan qui a fait la prière et qui a dit Ha'el Agadol Agibor Ve'anora et qui a rajouté encore une dizaine d'expressions Ve'a'izuz, Ve'a'chazak, Ve'a'atsum, etc., etc. Et Rabbi Eliezer, le Tana, était là-bas et quand il a fini, il lui dit comment, t'as fini? Si tu commences à dire les louanges de Dieu, tu ne peux pas t'arrêter. Elles sont infinies. N'est-ce pas? Conclusion, il est interdit de raconter les louanges de Dieu. Problème. Alors comment est-ce qu'on dit ici Nesaper Tehilatecha? Comment est-ce qu'on fait la Gada de Pessah? Oui. Les miracles. Pourquoi raconter les miracles? Pourquoi seulement les miracles? Pourquoi ne pas tout raconter? Eh bien, c'est une question qui est posée également par le Maharal de Prague dans son introduction à la Gada. Il dit, comment est-ce qu'on a le droit de réciter la Gada de Pessah? La Gada de Pessah, c'est un remerciement, c'est une louange qu'on fait à Akadosh Baruch Hu pour ce qu'il nous a fait en sortant d'Égypte. On n'a pas le droit de raconter les louanges. Et alors, qu'est-ce que tu en sais? Peut-être qu'il a fait plus que ça. Il t'a certainement fait plus, tu ne vois pas tout. Réponse du Maharal. Si l'intention du louangeur est de faire de la philosophie, c'est interdit. C'est-à-dire, je vais te définir Dieu, impossible. Je ne peux pas le définir, je ne peux pas définir ses bienfaits. Mais si l'intention est de s'acquitter du devoir moral, alors ça on peut. Parce que la relation que nous avons le droit d'entretenir avec le Créateur, c'est la relation morale. Donc nous allons raconter tes louanges pour nous acquitter de notre devoir moral. Oui? Oui? Ben si, c'est ça que Rabbi Eliezer a ressenti, probablement. Il a ressenti qu'il voulait définir. C'est pour ça qu'il lui a dit, tu n'aurais pas dû t'arrêter. C'est comme ça que le Maharal comprend, en tout cas. Vous trouvez ça Maharal, vous? Oui. Alors. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a un sens à chaque expression. Il ne faut pas rajouter sur ce que la tradition te dit, mais ça, si c'est la tradition, ça va. Donc, oui. Al-Hayenu, alors maintenant, pourquoi est-ce que nous allons te remercier? Al-Hayenu Amusurum Yadecha, pour notre vie qui est livrée entre tes mains, Val Nishmotenu Hapekudot Lar, et pour nos... Alors c'est quoi Nishmotenu? Ça peut vouloir dire nos âmes, ça peut vouloir dire nos respirations. Le mot Neshama, en hébreu biblique, est l'équivalent du mot Neshima en hébreu post-biblique. En hébreu post-biblique, Neshima veut dire la respiration. Et donc on peut te remercier pour chaque respiration. Ça peut vouloir dire également nos âmes, parce que nos âmes sont d'une certaine manière le souffle de la respiration de Dieu. Si on peut s'exprimer ainsi. Et donc nous le remercions pour notre vie et pour nos Neshamot. Ve'al Nisecha Shebcholom Imanu, et pour tes miracles qui sont tous les jours avec nous. Ah bon, il y a des miracles tous les jours, vous pensez comme ça, vous? C'est quoi le miracle qui est tous les jours avec nous? Pas toujours des miracles. C'est quoi le miracle non vu? Hein? C'est la nature, dit le Ramban. Le Ramban dit, la nature, c'est le miracle perpétuel. Vous comprenez? La nature, le fait qu'il y a les lois de la nature. Ben, les lois de la nature, c'est, étant donné que ça pourrait ne pas être, c'est donc un miracle, même si c'est permanent. D'accord? Et pour tes merveilles et tes bontés, chez Bechol Aet, qui sont à tout moment. Hein? Oui. Les sourimes livrés. L'imsor, ça veut dire livrer en français. Vanifliotecha vetovetecha, pour tes merveilles et tes bontés, shebechol aet, qui sont à tout moment. Alors c'est quoi tout moment? C'est pas tout moment. C'est aerev, avoker batzaoraim, le soir, le matin et l'après-midi. Pourquoi ce sont ces trois moments-là qui sont mentionnés? Parce que la manière dont je connais Akadosh Baruch Hu le soir est différente de celle dont je le connais le matin ou celle que je connais l'après-midi. Le soir, j'ai le sentiment de l'absence, c'est-à-dire de l'absence de mon être. C'est-à-dire je suis enveloppé d'obscurité, donc j'ai le sentiment d'être néantisé, de ne plus être. Et donc c'est le Créateur qui agit. C'est pour ça que la prière du soir, Arvit, est à l'origine une prière facultative. Le Maharal de Prague explique, parce que il n'y a pas de priant le soir, pendant la nuit. Je n'existe pas, véritablement. Je suis diminué dans mon être. Donc, il n'y a pas de sujet du commandement. Donc, la prière est facultative. C'est ce que dit le Maharal. Lequel? De Prague, évidemment. Et... Le matin, par contre, j'ai le sentiment du don de la vie. La vie m'est donnée. Il y a la joie du matin qui fait que mon être m'est donné à quel prix? Ben, gratuitement. Je n'ai rien fait pour le recevoir. C'est-à-dire, le matin, je reçois la vie et avant même de l'avoir méritée. Et l'après-midi, c'est là que je suis jugé. Est-ce que j'ai mérité? C'est-à-dire, l'après-midi, il y a un jugement. Est-ce que j'ai mérité, par mes actes de la journée, le cadeau que j'ai reçu gratuitement le matin? C'est pour ça que l'après-midi, c'est Midat Ad-Din. C'est le moment du jugement, de la rigueur. On peut continuer? On peut, n'est-ce pas? Bon. Alors là, vous allez voir, il y a une phrase assez importante. Atov ki lo chalou rachamecha, amerachem ki lo tamou chassadecha. Le bon, parce que sa miséricorde n'est pas épuisée. Le miséricordieux, parce que sa bonté n'est pas finie. Un peu lourd, hein? C'est un peu lourd. C'est très simple. Vous connaissez le Midrash qui dit Batehila ala b'marchavto shel akadosh baruch hu livro et haolam b'midat hadin. Au commencement, il est monté dans l'intention du Saint béni soit-il, de créer le monde par la rigueur. Vous connaissez ce midrash? Ra'a shena olam mitkayem. Il a vu que le monde ne tenait pas. Shitef midat arachamim, il a associé la miséricorde, venit kayem haolam, et le monde a tenu. Alors, essayons de bien analyser cette expression du Midrash. Batehila, au début, ça veut dire qu'a priori ça devrait être comme ça. Ala b'machashavto shel HaKadosh Baruch Hu est monté dans la pensée de Dieu. Ça veut dire quoi, monter dans la pensée? C'est pas très clair, mais enfin, laissez tomber pour l'instant. Il est monté dans la pensée, il a eu la première intention de créer le monde. C'est quoi cette intention de créer le monde? C'est l'expression de quelle valeur, de quel mida? Mida tachesed, c'est la bonté. Et sa bonté est... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, justement. Justement pas. L'intention, c'est l'absolu. Et le fait, c'est le réel. Il y a ce qu'on appelle en philosophie la différence entre la vérité et la réalité. En vérité, c'est comme ça, mais en réalité, c'est autrement.
C'est la parole et la...
Non. Non, non, c'est ça. Il y a toujours cette différence. Dans Bereshit, on avait vu ça. Mais non, il y a une intention là-dedans. C'est pas pour rien que c'est comme ça. Enfin, d'abord, essayons de voir. Je voudrais analyser la phrase. Batehila ala b'machashavto shel HaKadosh Baruch Hu livro et haolam. Au début, Dieu avait l'intention de créer le monde. Cette intention de créer le monde, ça s'appelle comment? C'est quel mida? Chesed. C'est la bonté. Et cette bonté était tellement grande qu'il a voulu que ça se fasse selon la rigueur. Midat Hadin. Parce qu'il n'y a pas de plus grande bonté que d'être méritant. C'est-à-dire, s'il nous avait tout donné purement gratuitement, ça aurait été un cadeau empoisonné. Parce que quand je reçois quelque chose gratuitement, ça veut dire que je n'ai pas de sens. C'est comme les bonnes mères juives qui disent « Comment se fait-il que je lui ai tout donné et qu'il se comporte comme ça ?» Ben, la réponse, c'est parce que tu lui as tout donné qu'il se comporte comme ça. Parce que de tout donner à son fils, c'est l'empêcher de vivre. Et donc il y a une révolte. Oui ? Exactement. C'est comme, il y a deux manières, par exemple, d'aider quelqu'un économiquement. Il y a celui qui est, vous trouvez un clochard dans la rue et vous lui jetez un million de dollars à la gueule. Prends un million et va-t'en. Vous avez écrasé la personne. Tandis que si vous lui dites, voilà, écoute, on va te donner 10 000 dollars comme un prêt, mais à condition que ce soit utilisé pour ouvrir un stand de vente de tomates au marché. Et tu devras rendre ça dans un certain délai que nous allons fixer. Eh bien, c'est une aide beaucoup plus importante, parce que ça permet de relever la personne et de lui conserver sa dignité, puisqu'il fait quelque chose pour pouvoir rendre. C'est-à-dire que le fait de donner le moyen d'être méritant, c'est plus grand que de donner la pure bonté. Donc, HaKadosh Baruch Hu, dans sa bonté, a voulu que ça passe par la Midat Hadin. Il a voulu que ça passe par la rigueur. Mais on ne peut pas s'acquitter dans l'immédiat de la Midat Hadin. Donc il faut avoir un délai. Le délai s'appelle en hébreu Rahamim, la miséricorde. Rahamim, c'est un mot au singulier ou au pluriel? Pluriel. Alors c'est quoi le singulier? Rechem. Rechem, ça veut dire la matrice. La matrice, c'est un lieu dans le corps de la mère où l'on se prépare. On prend du temps, 9 mois, pour se préparer à confronter l'extérieur. Parce que immédiatement après la fécondation, on ne peut pas affronter l'extérieur. Donc on a d'abord le rechem. C'est donc le temps. C'est-à-dire que ce que Dieu a donné, il a donné le temps. Midat ha-rachamim. Mais le rachamim, et grâce à ce rachamim, on arrive finalement au bien. Le bien, c'est l'existence. Alors maintenant, regardez comment c'est écrit dans la prière. Hatov, il est bon, il a donné le bon. Kilo chalo achamecha, parce que sa miséricorde n'est pas épuisée. Mais pourquoi est-ce qu'il a donné sa miséricorde? Amerachem kilo tabo chasadecha. Sa miséricorde vient du fait que sa bonté n'est pas épuisée. Vous avez compris? C'est-à-dire, si vous voulez, il y a ici plusieurs strates. La première strate, c'est le chesed. Après vient le din, après vient rachamim, et après vient l'existence. Tov. D'accord? Cheder. Chesed din rachamim. Si vous invertissez, par exemple, que vous mettez le din comme conclusion, ça vous donne chared. Mais le schéma moral de la Torah, c'est chesed, din et après rachamim. Atof ki rochav rachamecha, rachem ki utamu chasadecha. Ki me'olam, ki vinu lach. Pourquoi vous rigolez? Car depuis toujours, nous avons l'espérance en toi. Ve'al kulam. Et en plus de tout cela, alors bon, là c'est là qu'intervient le Alanissim, à Hanouka et Purim, on rajoute des remerciements pour les miracles de Hanouka et de Purim. Certains rajoutent également pour Yom HaAtzmaout. Ve'al kulam yitbarach v'yitromam v'yitinset amin shecham malkeinu olam va'ed. Comment? Il y a par exemple dans la synagogue italienne de Jérusalem, ils ont inventé un Alanissim. Il y a quelques initiatives de ce genre, mais rien de cela n'a reçu l'aval de la Rabbanout pour l'instant. Voilà. Enfin, bon, maintenant, c'est la suite de la bracha. Elle mérite d'être bien étudiée. Or, nous n'avons pas le temps, donc nous allons nous arrêter là. Shalom.